Genèse chapitre 4, c'est facile à trouver dans les livres. On va lire les 17 premiers versets. Vous connaissez tous l'histoire de Caïn et d'Abel, belle histoire, fraternité. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai acquis un homme de par l'Éternel ». Elle enfanta encore son frère Abel, Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Si tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'Orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. Vous connaissez cette histoire, je pense, pour la plupart. Le contexte, on se souvient qu'Adam et Ève, juste quelques temps avant, ont été chassés du jardin d'Éden parce qu'ils avaient désobéi à Dieu, tout simplement. Et Dieu les condamne maintenant à vivre loin de ce jardin qui était parfait, merveilleux, tout simplement parce que ils ont voulu faire ce qu'ils avaient envie, tout simplement, désobéir à Dieu. Et l'homme doit maintenant se débrouiller tout seul. C'est quand même dommage, vous aviez un jardin où tout poussait tranquillement. Il fallait un peu le cultiver quand même, mais c'était quand même un peu plus abondant. L'homme a préféré se débrouiller, travailler. Vous aimez travailler ? Vous croyez que dans le jardin d'Éden, vous n'auriez pas travaillé ? Souvent j'entends ça, mais si, ils demandent de travailler aussi dans le jardin d'Éden. Donc râlez pas s'il faut aller travailler tous les jours. Même dans le jardin d'Éden, il aurait fallu travailler. Mais ils ont désobéi à Dieu, Adam et Ève, juste pour un petit fruit. Il y avait des milliers d'arbres, il y en avait un seul qui me plaisait. Et à cause de ça, toute l'humanité a chuté, la convoitise, puis la mort, nous dit Jacques, on le reverra tout à l'heure. Et à partir de là, le péché a commencé à se répandre tout simplement dans le monde. Et on voit les conséquences que ça va avoir sur leur propre famille. On va parler, on va mettre plutôt en contraste la foi et la religion à travers ce passage. La foi avec Abel et la religion avec Caïn. Nous, j'ai entendu tout à l'heure qu'on a une religion, mais je ne dirais pas que nous avons une religion, nous vivons par la foi. C'est le monde qui vit selon la religion, mais nous on vit par la foi. Et on voit bien là le contraste qu'il y a entre la foi et la religion. Première chose qu'on apprend, c'est qu'il y a 2 manières de suivre Dieu. La famille, on vient voir, d'Adam va s'agrandir après la chute. Adam et Ève vont vivre, labourer, j'imagine, prospecter. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, on n'a pas vraiment de témoignage. Ils vont s'occuper des animaux, puisque ça leur a été demandé. Puis il est dit qu'Ève va former un enfant avec l'aide de Dieu. Elle dit avec l'aide de Dieu, elle reconnaît l'aide que Dieu va faire dans cet enfantement. Elle réalise que malgré la punition, parce qu'il était dit dans Genèse 3,16 que la souffrance ses souffrances augmenteraient pour les grossesses, mais elle reconnaît quand même que Dieu était là pour l'aider malgré la difficulté. Dieu est bon quand même. Un Dieu merveilleux, même quand il nous reprend des fois, il est toujours derrière nous pour nous câliner, entre guillemets. Calvin pense qu'elle a eu des jumeaux et que Abel et Caïn seraient des jumeaux parce qu'il est dit qu'elle a connu Adam qu'une fois au départ. Alors, faites ce que vous voulez, vous m'écrivez un livre là-dessus, c'est pas le plus important, que ce soit des jumeaux ou pas, de toute façon ça va mal finir. Les fils connus d'Adam et Ève, alors on sait que Caïn signifie possession, artisan, forgeron, on sait qu'il était laboureur, vu ce qu'il va offrir, certainement aussi berger. Au chapitre 4, verset 17, on pense qu'il était peut-être déjà marié, ce qu'il va dire un peu plus tard, qu'il va connaître sa femme, mais est-ce qu'il était déjà marié à ce moment-là ? C'est difficile de le savoir. Pas beaucoup d'importance non plus, mais bon. Abel veut dire souffle, vapeur, vanité. Marrant le nom qu'il avait, hein. Souffle, sa vie est passée comme un souffle, hein. Très rapidement, hélas. C'était un simple berger. On sait aussi qu'il y aura un autre fils qui va naître à Adam quand il avait 130 ans. Vous imaginez avoir un bébé à 130 ans, là, hein, papa à 130 ans, ça va être sympa, hein. Surtout pour la maman, j'imagine, en plus. Ouais. Mais c'était pas la même époque, il vivait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus longtemps. 130 ans, c'était l'adolescence, hein, pour cette époque-là. Mais dans Genèse 5, 4, on voit qu'ils vont avoir beaucoup d'autres enfants. C'est pour ça qu'on se demande des fois comment Caïn, quand il va partir, il va rencontrer des civilisations. Mais en 130 ans, vous en faisiez des générations, et des enfants et des enfants. Ça va très, très vite. Et c'est là, pour moi, hein, la première famille, on pourrait dire, pêcheur, tout simplement. C'est une famille de pêcheurs qui vient de désobéir à Dieu, et une famille tout simplement ordinaire, et une vie presque ordinaire, parce que je ne pense pas que vous vous entretuez dans vos familles. Enfin, je ne le souhaite pas, mais ça arrive, hélas, des fois. En tout cas, il y a des choses qui se passent. Et d'un coup, on voit qu'ils vont apporter des offrandes. Deux offrandes vont être apportées à Dieu au bout de quelques temps, il est dit. Au bout de quelques temps, alors là, il y a beaucoup de gens qui pensent et réfléchissent, et ils se disent, littéralement, ça veut dire à la fin des jours. Alors, plusieurs interprétations, peut-être que ça aurait été à la fin de la saison des récoltes. Donc, c'est pas très loin, on ne sait pas. Il y en a qui pensent que c'est après une augmentation considérable de la population. Donc, après 130 ans, peut-être, hein, comme d'autres pensent, après la naissance de Seth, il y a eu beaucoup de générations, etc. Difficile de savoir. Et après la naissance de Seth, il est dit que Adam engendra des fils et des filles, et il n'est pas dit qu'il en a fait un ou deux, j'imagine qu'il en a fait beaucoup, pour que la terre se remplisse aussi vite. Donc au bout d'un certain temps, certainement au bout de 130 ans après, on ne sait pas exactement, mais d'un seul coup, les enfants vont vouloir apporter une offrande à Dieu, honorer Dieu. Alors d'où ça leur vient ? Les commentateurs se disent peut-être que les parents ont appris à honorer Dieu à leurs enfants. On ne peut pas être sûr à 100%, mais enfin l'idée ne leur est pas tombée comme ça sur le coin de la figure à un moment. Tiens, je vais faire une offrande à Dieu. Ils ont dû l'apprendre quelque part. Adam et Ève vont peut-être aussi leur apprendre, parce que c'est curieux que Abel va faire un sacrifice par effusion de sang. Certainement qu'ils ont appris cela. Vous vous souvenez que quand ils ont été chassés du jardin, Dieu leur a fait un vêtement, parce qu'ils ont appris qu'ils étaient nus. Et c'est la première fois qu'un sacrifice a été fait pour tuer un animal pour qu'il puisse avoir un vêtement. C'est le premier sacrifice par effusion de sang. Et peut-être qu'eux avaient compris que ça devait continuer dans la pensée de Dieu. Et de toute façon, nous, on est certains aujourd'hui, puisque Jésus-Christ a fait ce sacrifice à la croix. D'autres pensent qu'ils sont venus là simplement par pure reconnaissance et qu'ils ont apporté leurs offrandes. On ne va pas se battre ce matin pour ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y a deux sortes de sacrifices qui vont être offerts. Caïn vient avec plein de joie, quoi. Je pense qu'il était vraiment honnête, hein, et il est venu avec ses fruits de la terre, sa récolte, et il va présenter ça à Dieu. Abel va venir avec le premier-né du bétail, et la graisse, c'est le meilleur morceau à ce qui paraît, et vont offrir cela en sacrifice devant Dieu. Certainement que le sacrifice de Abel va être complètement brûlé, parce qu'à ce moment-là, on ne mangeait pas encore de viande. Il faut savoir. C'est qu'après le déluge qu'on va commencer à consommer nos pauvres petits animaux. Mais à ce moment-là, certainement qu'il avait brûlé entièrement le sacrifice. Alors, on peut se poser la question, est-ce qu'ils savaient qu'ils faisaient bien ou pas bien, tous les deux, hein, parce que je pense qu'ils sont venus là assez innocemment. Je ne sais pas si c'est vrai aussi, mais Dieu va en tout cas leur montrer maintenant ce que lui agrée ou non. On peut des fois essayer de faire des choses pour Dieu, mais peut-être à un moment, on peut aussi lui laisser nous dire « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». C'est ce qui va se passer tout simplement. Donc on peut avoir des projets, on peut avoir un tas de choses parce qu'on aime Dieu, parce qu'on veut faire des choses pour Dieu, vraiment par reconnaissance ou d'une autre manière. Mais si Dieu dit à un moment « je vois les choses d'une autre manière », à nous de ne pas nous enorgueillir, comme Caïn va tout simplement le faire. Et j'ai mis en deuxième point, c'est que la religion ne dicte pas la pensée de Dieu. Aujourd'hui, vous avez des tonnes de religions, et tout le monde dit « c'est Dieu qui dit que ». Et un jour, Dieu va leur y dire à tous, non, j'ai jamais dit ça, moi. Au musulman, il dira, j'ai jamais dit d'aller tuer tout le monde, de vous faire exploser, j'ai jamais dit ça, moi. Au catholique, il va dire la même chose, il n'y a pas de pape, où c'est écrit dans ma parole, hein. Ça va faire bizarre, hein, à tous ces religieux, à un moment. Mais Dieu se plaît, parce qu'il est souverain, et parce que c'est lui qui décide, à avoir un regard sur les offrandes qui lui sont présentées. Il a le droit, c'est à lui qu'on offre, hein. Et donne son opinion, son approbation. Et il va faire remarquer par un signe, certainement extérieur, cette opinion. Alors, on ne sait pas exactement comment ils ont compris. Il y en a qui disent que Dieu serait apparu. Il y en a d'autres, comme à l'époque avec Élie, le feu serait descendu du ciel. Choisissez l'option que vous voulez. En tout cas, c'était assez clair pour Caïn et Abel. Mais surtout, Dieu va montrer quel sacrifice il agrée et quel sacrifice il n'agrée pas. Il a droit, non, de dire ça. C'est Dieu. Et en plus, si on veut le servir, donc quand on veut le servir, on veut faire ce qui lui plaît, pas ce qui ne lui plaît pas. Et la base de ce choix va être expliquée bien plus tard, par exemple dans Hébreux 11, 4, où il dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore quoi que mort. » Abel est venu avec la foi. Je ne sais pas exactement dans quelle foi il avait à ce moment-là, mais en tout cas, il est venu avec sa foi, et c'est intéressant, il est déclaré juste. Caïn, par contre, il est dit dans 1 Jean 3,12, « Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. » Il y avait déjà une disposition dans le cœur de ces deux jeunes hommes qui étaient là et qui vont leur permettre de dire « Moi, je vais offrir une offrande comme ça et une offrande comme cela. » C'était à cause du cœur que l'offrande va être donnée. Et le Seigneur connaît nos cœurs. Il dit par exemple en Matthieu 5, 24 « Laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis ensuite viens présenter ton offrande. » Le Seigneur sait, quand on vient avec le grand sourire, avec peut-être un sacrifice, vouloir montrer aux gens qu'on est un super chrétien, il sait ce qu'il y a aussi dans le cœur, et on ne le trompe pas. Et là, c'est ce qu'il est en train d'expliquer tout simplement à Caïn surtout. Mais on voit aussi là deux types d'offrandes, et d'hommes peut-être. Caïn, c'est un peu le type de l'homme qui est naturel, terrestre, c'est un peu le religieux, on pourrait dire. Parce que il ne va pas comprendre ce que Dieu lui dit. « Moi, je voulais faire bien les choses pour toi. Et pourquoi tu refuses tout simplement ?» Il ne comprend pas. Et il ne comprend peut-être pas le péché. Il comprend le péché, c'est-à-dire de désobéir à Dieu. Il ne comprend pas la repentance, parce qu'il ne va pas le faire, évidemment, au contraire. Il ne comprend pas la réconciliation. Dieu lui a dit « C'est pas ce que je veux. » Il aurait pu dire « Bon, ok, ben, je me suis trompé, je fais comme tu veux. » Ben non. Comme les enfants, quand ils sont petits, là. « Je veux mon jouet. » Ça va être pire même. Lui, il veut vivre une vie d'adoration, une vie chrétienne, mais qui est un peu personnalisée. Je fais ce que j'ai envie. Même quand Dieu me dit que c'est pas bon. C'est ça le pire. Quelqu'un écrivait, un pasteur écrivait « Hélas, mes frères, il est fort à craindre qu'une grande multitude de chrétiens professants, des personnes qui viennent régulièrement au culte, qui écoutent avec une certaine assiduité la proclamation de la vérité, et aiment assez discuter des sermons, des pasteurs et de ce qui est orthodoxe, s'arrêtent à ce point. » Ils sont néanmoins persuadés d'être chrétiens et oublient que toute forme de religion ou l'amour de Dieu est absent du cœur et où la vie n'est pas consacrée à son service, n'est pas à ses yeux que tromperie. Un peu du vieux français. En somme, il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église régulièrement, qui sont religieux, mais qui ne sont pas nés de nouveau forcément. Et la question qu'on peut se poser, c'est pour nous. Est-ce que nous sommes des gens religieux qui voulons vivre une religion d'adoration, etc. Ou est-ce que nous sommes vraiment nés de nouveau avec l'envie de servir, de marcher avec le Seigneur? Ce que nous apprend Caïn, lui façonne Dieu à son image, et nous le faisons aussi des fois. On façonne Dieu à notre image, à sa volonté. Dieu n'a jamais dit qu'il faut venir tous les dimanches à l'église. C'est vrai? Vous êtes sûr? On façonne Dieu à son image. Puis j'ai envie de faire quelque chose, on sait que ça me pose un problème, mais je le fais quand même parce que je vais façonner Dieu à mon image. Et finalement, je suis en train de créer mon Dieu à moi, qui est des fois bien loin de la Bible, et aujourd'hui surtout dans beaucoup d'églises. Et finalement, je fais ma petite idole personnelle. Voilà. On peut venir à l'église et faire une idole de Dieu. Terrible. Et c'est ce qu'a fait tout simplement Caïn, peut-être pas aussi profondément, mais il a dit « Non, 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 non. Moi, j'ai décidé de te servir de cette manière-là et je vais faire les choses comme moi j'ai envie. Si tu me dis quelque chose, je m'en fiche, je continue. » Et il va le faire. Et c'est ce que fait la religion. Je suis sûr que Dieu a dû parler au pape un jour, dans une prière, je ne sais pas, enfin, peut-être que j'exagère, mais a dû leur parler à un moment. Mais les gens sont têtus des fois et ne veulent pas changer d'attitude. On ne va pas leur jeter la pierre parce que je crois qu'on est à peu près pareil. À moins que vous soyez des gens extrêmement modelables, faciles à changer, je ne suis pas non plus. Mais voilà le type de l'homme naturel, le type du religieux. Il fait de Dieu ce qu'il a envie, et puis il crée son culte, il crée toute une doctrine au travers de ça. Abel, lui, est plutôt un type de l'homme spirituel, qui adore par la foi. C'est carrément l'inverse. C'est pour ça que je n'aime pas dire que je suis dans la religion, parce que c'est carrément pas la même chose. Abel, certainement qu'Adam et Ève leur ont appris à tous les deux. On pense qu'il fallait faire un sacrifice par effusion de sang, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi Abel aurait eu l'idée de faire ça. Il aurait peut-être vu son frère, il aurait fait exactement la même chose. Peut-être offert sa voiture, ou je ne sais pas, enfin bon. Mais il va faire ce que Dieu demande tout simplement, et il sera justifié. C'est marrant qu'on parle déjà de justifier à cette époque-là. Vous imaginez ? Des milliers d'années après que Jésus va venir, on va parler de la justification pour le chrétien. Mais là, il est déclaré juste parce qu'il a agi comme Dieu lui demandait. Je ne sais pas s'il s'est repenti de ses péchés. Peut-être que ce n'est pas le même sens que nous, on a aujourd'hui. Mais en tout cas, il est venu par la foi. Et à cause de cette foi, il fut déclaré juste. Abraham, bien plus tard, pareil, sa justice sera imputée. Sa foi sera imputée à justice et sera déclarée juste devant Dieu. Vous savez, de toute époque, ce n'est pas seulement de croire en Jésus, mais c'est par la foi que l'on est sauvé. Hein, qu'il y ait le Saint-Esprit, qu'il n'y ait pas le Saint-Esprit, qu'il y ait une période difficile, ça a été toujours par la foi que nous avons été sauvés. Mais par la foi en quoi ? C'est ça la question. Que Dieu existe, que Dieu est souverain surtout, et que quand il dit quelque chose, par exemple, que nous sommes pécheurs, ben nous le sommes. Nous n'avons pas à tergiverser deux heures, de toute façon, qui va dire qu'on n'est pas pécheur. Et si vous l'êtes, vous faites votre premier mensonge. Donc vous venez de pécher. Que ce péché mérite la mort, parce que Dieu l'a décidé, c'est pas moi qui vais aller le voir en disant, écoute, moi je suis pas d'accord. Et que ce péché qui mérite la mort nous emmène droit en enfer, mais heureusement que Jésus-Christ est venu. Mais il faut croire toutes ces choses-là. Satan croit en Dieu plus que vous. Plus que vous, pourquoi ? Parce qu'il a vu Dieu. Il sait qu'il existe Dieu. D'autant plus coupable parce qu'il l'a vu et qu'il s'oppose complètement contre lui. Mais c'est par la foi qu'il a accepté d'agir de cette manière-là. Ce n'est pas par les mérites de Abel. Abel, ce n'était pas forcément le meilleur des enfants, hein. Il n'est pas dit ça. Mais il a agi comme Dieu demande. Et l'excellence de ce sacrifice va tout simplement honorer Dieu. Et il ne va pas se rebeller. Ben, Dieu agrée ce que je fais. Chouette. Non, ça fait du bien. Il est content. Et lui, ça ne va pas lui poser de problème ensuite dans son cœur. Et voilà. Deux manières de suivre, entre guillemets, Dieu. Un, par la religion, c'est-à-dire ce que moi j'ai envie de faire, créer. Deux, l'obéissance à Dieu. Ça s'appelle tout simplement la foi. Mais des fois, on est entre les deux. Hein, des fois, on a envie de faire ce qu'on a envie, parce qu'on a une petite nature religieuse dans notre cœur. Mais Dieu montre surtout à ce moment-là, et c'est peut-être un témoignage pour l'humanité, comment il veut être approché. C'est pas à l'homme qui dit comment je m'approche de Dieu, c'est à Dieu de dire comment il veut être approché. Parce que l'homme, lui, serait prêt à courir devant Dieu, mais qu'est-ce qui se passerait ? Consumé à cause de son péché, tout simplement. Heureusement que Christ est entre Dieu et nous aujourd'hui et que nous pouvons nous approcher de lui. Mais c'est à lui de décider. Et ensuite, quand lui a décidé comment il veut t'approcher, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on lui obéit, tout simplement. Et on agit comme il nous le demande et non pas de façon religieuse comme beaucoup de gens le font aujourd'hui. Troisième chose qu'on peut apprendre de ce texte, c'est que ce qu'on voit avec Caïn surtout, c'est que celui qui est religieux, ben, il a du mal avec le péché, beaucoup de mal. Peut-être qu'il a aimé Dieu par sa religion, mais il va faire beaucoup de bêtises. Et c'est à cause de cette religion qu'il n'avait pas la foi. Et là, il y a la jalousie qui va commencer à rentrer dans le cœur de Caïn. Il réalise, alors, ça devait être honteux peut-être pour lui, mais en même temps, ils étaient deux. Il n'y a personne pour l'humilier à ce point-là. Mais il réalise que Dieu a agréé le sacrifice de son frère et pas le sien. Dégueulasse. Pourquoi lui et pas moi ? Comme on l'a dit, il n'est pas meilleur, hein, on va dire, en tant qu'enfant. J'imagine que c'était deux cancres comme nous l'avons été dans notre jeunesse. Mais pourquoi pas le mien ? T'as dû travailler, à mon avis. Hein. Et la jalousie, le problème, c'est qu'elle grandit, elle grandit, elle le conduit à l'irritation, si on ne la fait pas cesser. Et puis à l'abattement, et certainement que ça avait un impact sur sa propre santé, mais il est arrivé à un tel point, peut-être de dépression, on pourrait parler à ce moment-là. Mais pourquoi Dieu n'a pas voulu faire comme moi je l'entends ? La question est bête quelque part, hein, mais bon, c'est ce qu'il y avait certainement dans le cœur. Et ce qui est encore plus injuste quelque part, c'est qu'il est jaloux contre son frère, mais c'est pas son frère qui l'a repris. Il n'a rien fait, le pauvre Abel. C'est Dieu qui lui a repris et qui lui a dit « tu as mal fait ». Abel, je pense pas qu'il a fait la frime après en disant « t'as vu, moi Dieu, il m'a mis ». Je pense pas, en tout cas c'est pas dit dans le texte. Mais pourquoi il a de la jalousie contre son frère ? C'est contre Dieu qui devrait avoir un problème, pas contre le frère. Hein ? Donc c'est vraiment totalement injuste. Et Dieu lui dit, tu as deux réactions possibles. Moi, j'aime beaucoup ça parce qu'on voit que même dans le plus pire de nos péchés ou de notre abattement, Dieu est toujours là pour nous accompagner. C'est extraordinaire. On peut s'opposer à Dieu au maximum, il est toujours là pour m'accompagner. Et il va l'accompagner justement dans ces moments difficiles. Dieu va rendre conscient Caïn de son état et les risques. C'est quand même formidable que là où on est au plus profond, Dieu vient quand même me parler d'une manière ou d'une autre et me dire toute sa compassion, change s'il te plaît, change, je vais t'aider, mais change tout simplement ton attitude. Aujourd'hui, Dieu ne nous parle pas de la même manière, mais on a la parole de Dieu, on a le Saint-Esprit, quand même quelque chose d'extraordinaire, qui aussi nous travaille notre conscience et qui nous pousse vers la repentance, sauf si on est obtus comme Caïn, évidemment. Mais Dieu va lui présenter deux choix devant lui, si tu agis bien ou si tu agis mal. Il n'y a pas beaucoup de solutions, mais il y en a deux. Si tu renonces à tes dispositions à l'égard d'Abel, certainement que Dieu avait compris que dans la tête de Caïn, il était déjà en train de, préméditation, de faire quelque chose, en tout cas contre Abel. Dieu lui dit, arrête, arrête d'être jaloux. T'as rien fait. Sois peut-être en colère après moi, mais pas après lui. Lui n'a rien fait du tout. Si tu renonces à ta disposition contre Abel, à toutes ces mauvaises pensées certainement que tu avais, bah, tu vas relever la tête. Alors c'est pas toujours simple, hein, quand on a des mauvaises pensées dans la tête, de dire, ah bon, j'arrête d'un seul coup. Hein. On est des humains, on sait à quoi ça ressemble. Bon là, ça devait être vraiment très très profond. Mais il dit, arrête et tu relèveras ton visage, tu iras mieux. Et puis le péché, ben, il va s'éloigner de toi, tu ne seras pas tenté. Mais Caïn se place sous la tentation. Sinon, comme dit Dieu, le péché va se coucher à la porte. L'image en hébreu, c'est cette bête féroce hein, qui guette sa proie. On peut imaginer un lion qui n'est pas loin et qui va bouffer tout simplement. Et c'est ça le péché bien souvent. Hein. On ne pêche pas directement, il y a la convoitise qui est là. Mais si on laisse un peu le lion s'approcher, ben à un moment, on ferait son repas, tout simplement. Ses désirs se portent vers toi. C'est la même expression que quand il était dit que les désirs de la femme se porteront vers l'homme. Vous imaginez l'intensité. Je ne sais pas si vous nous aimez à ce point-là, mesdames, mais il y avait une intensité en tout cas. C'est le même mot. Mais le péché va venir de plus en plus actif dans ta vie jusqu'au moment où tu vas le mettre en pratique. Ça nous rappelle Jacques, chapitre 1, verset 14 à 15, il est dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, parce qu'on peut tous être en train de convoiter quelque chose. Ce n'est pas un péché, ça, encore, parce que le diable nous met beaucoup de choses. Mais quand la convoitise a conçu, alors là, c'est trop tard. Elle enfante le péché, et le péché étant consommé, produit ensuite, tout simplement, la mort. » On convoite beaucoup de choses dans notre vie. D'une manière ou d'une autre, mais tant qu'on convoite, ça va. Mais si on le laisse entrer dans notre cœur, hein, c'est comme l'oiseau, hein, il peut voler au-dessus de votre tête, mais à un moment, s'il fait le nid sur votre tête, c'est trop tard. Et après, ça enfante le péché, et péché sur péché, etc. Mais Caïn, lui, ne va pas lutter contre cette convoitise, parce que c'était trop fort au fond de lui, mais je pense que c'était pas suffisamment fort, dans le sens où ben, Dieu lui propose justement de changer d'attitude. Donc il avait la possibilité de changer son cœur. Mais lui va préférer laisser la jalousie grandir, et on sait exactement ce que ça va donner. Alors, il dit « domine sur le péché ». Le mot en hébreu parle de dominer, présider, gouverner. Dieu nous dit à nous, en tant qu'hommes et femmes, que nous avons une sorte d'autorité sur le péché. Quand on tombe dans le péché, on dit « ah, je suis faible ». Non, Dieu dit « t'es pas obligé ». C'est dur à dire, aussi à penser, mais Dieu nous dit « tu as une autorité, tu es capable de dominer sur le péché, à toi de le refuser. » Et là, Caïn, en plus, avait l'assistance de Dieu pour y arriver. Aujourd'hui, on a le Saint-Esprit, on a la parole qu'on m'a dit. Donc, à un moment, Dieu nous tient vraiment responsables parce qu'il nous donne aussi la faculté, surtout en tant que chrétien aujourd'hui, de pouvoir renoncer au péché. Facile à dire, pasteur, parce qu'on pêche encore. Mais on le regrette, évidemment. Mais c'est à nous, c'est à Caïn de lutter contre le péché, et Dieu aurait fait ensuite sa part. Je peux être dans la convoitise, je peux avoir des désirs, et à un moment, c'est tellement fort, mais on se met à genoux et on prie Dieu. Aide-moi, aide-moi. Et à ce moment-là, quand on laisse Dieu faire, lui va faire sa part. C'est ça qui est formidable. Bien souvent, on se sent victime, etc., mais si on demande à Dieu de nous aider, lui va nous aider et le péché va fuir tout simplement loin de nous. C'est formidable que Dieu nous aide même dans ces domaines-là. Mais Caïn, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il est religieux, parce qu'il n'a pas la foi, tout simplement, parce qu'il croit à un Dieu qu'il a façonné lui-même, eh bien non, lui, il ne va pas lutter, il ne va pas se repentir, et il va tout simplement ne pas accepter l'aide de Dieu ou son opinion, et puis ben, on voit les conséquences, tout simplement. Quatrième chose, hein, les conséquences de la religion. Quand on regarde un peu ce monde et la religion, ce qu'elle a fait depuis je ne sais pas combien de siècles, que des bonnes choses, hein. Que des guerres, des morts, des morts, des guerres, des morts, des morts, des guerres, des morts, des morts. Que ça, les conséquences de la religion, tout simplement. Et Caïn est un peu l'initiateur de tout cela. Et il va tuer, tout simplement, certainement que c'est le premier meurtre. Hein. La Bible ne dit pas si c'est le premier, mais on a l'impression. Mais Caïn ne va pas tenir compte de l'avertissement de Dieu, et là, il ouvre grande la porte au péché. Là, Dieu dit, ben, je ne peux plus rien faire maintenant, hein. Puisque tu as fait ton choix, maintenant, tu y vas, et je te laisse y aller. Et la haine a tellement grandi à ce moment, Vous savez, pour tuer quelqu'un, et surtout son frère, il faut vraiment avoir une sacrée haine, quand même, hein, pour aller tuer son frère. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais versets 8 à 9, il est dit 4 fois « frère ». Où est ton frère? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton frère? Etc. Comme si Dieu voulait mettre l'accent sur l'horreur qu'est le péché qu'on peut produire envers sa famille, d'une manière ou d'une autre. C'est marrant qu'il parle 4 fois de ce mot « frère ». Et on voit les caractéristiques de ce meurtre. Hein. Il est prémédité. Dieu savait que dans son cœur, ça commençait à monter, à préparer, à planifier. Mais voilà, quand on est jaloux, quand on a peut-être une convoitise, donc on ne veut pas la soigner, à un moment, tu ne peux plus rien faire, puisque nous ne sommes pas des robots, on n'est pas des machines. Heureusement, ce serait plus simple, il n'y aurait plus de péché, mais bon, on ne serait pas des êtres humains non plus. Mais tout ça a été prémédité, et le premier meurtre de la religion, j'ai envie de dire, s'est accompli au travers de Caïn. Il a obéi à lui-même, il a obéi à ses sentiments, il a obéi à sa religion, plutôt que poser la question à Dieu et de céder tout simplement à Dieu. J'aurais bien voulu que pendant l'Inquisition, à un moment, ils s'arrêtent et qu'ils se mettent vraiment à prier. Seigneur, est-ce qu'on fait bien de torturer tous ces gens-là? Se poser au moins la question à un moment, parce que si on est chrétien, soi-disant, et qu'on sert Dieu, on peut quand même se poser la question devant tout le sang qu'on est en train de faire devant nous. Est-ce que c'est vraiment ce que Dieu veut? C'est qu'à un moment, on s'en fout complètement et on a créé son propre Dieu, tout simplement. Donc, premier meurtre de la religion au travers de Caïn, premier martyr, Abel. Premier martyr, je sais pas, il va mourir à cause de sa justice, il est dit, et à cause du fait qu'il ait obéi à Dieu. On voit ça dans Matthieu 23, 35, il est dit « Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachi, etc. » C'est pas le premier qui va souffrir à cause de sa justice, par le fait qu'il obéit à Dieu. Il va y avoir toute une série de meurtres, de condamnations, etc., pour ces gens, et on vient de parler de l'Église persécutée, c'est qui? C'est les religieux qui persécutent l'Église. Personne d'autre. Enfin, il y a les gouvernements, mais la laïcité, c'est une forme de religion aussi aujourd'hui, hein, quelque part. Mais voilà, premier martyr, premier mort injuste, on va dire, et quelle tristesse. Mais Dieu va prononcer son jugement à ce moment-là, parce que Dieu ne laisse pas faire les choses, et... Un peu comme à l'époque avec Adam, quand il est parti, quand il a été chassé, non, quand ils avaient désobéi, Dieu va l'appeler, « Où es-tu, Adam? Pourquoi tu te caches? Qu'est-ce que tu fais ?» Comme si tu veux te cacher de Dieu, réfléchis un petit peu, enfin bon. Mais pareil, il y a une espèce de petit interrogatoire de la part de Dieu, certainement comme pour Adam, peut-être même comme pour nous, par le Saint-Esprit des fois, pour nous pousser à la repentance. Et il dit, « Il est où ton frère ?» Ce que Dieu savait. Bien sûr qu'il savait. Mais c'est simplement pour que Caïn se dise « C'est une bêtise, là. Une grosse bêtise. » Mais il ne va pas reconnaître son péché. Et il va dire même, avec vraiment, il est effronté, je trouve, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Hein? C'est quand même effronté devant Dieu. Je ne sais pas à quel point il le connaissait, mais d'être prêt à lui mentir en face. C'est la religion, tout simplement. « Qu'as-tu fait ?» lui dit Dieu. Dieu est indigné, là. Mais il n'attend pas en même temps une réponse, parce que Dieu savait de toute façon ce que Caïn avait fait. Mais il dit surtout une chose, la voix du sang d'Abel crie de la terre à moi. Croire que la terre dit des choses, des fois à Dieu, entre guillemets, peut-être poétique aussi, mais Dieu étant partout et sachant tout, forcément on ne peut pas lui cacher le moindre des actes que nous faisons dans notre vie. Des fois on a l'impression qu'on peut se cacher derrière, mais non. Dieu sait absolument tout ce que nous faisons dans notre vie. Et Caïn lui-même n'a pas pu cacher son péché devant Dieu. Et il va faire une sentence toute simple. Hein, il va dire « Qu'as-tu fait ?» Ce « Qu'as-tu fait ?» pour nous, peut-être ça ne résonne pas beaucoup, mais le jour où vous aurez fait un meurtre, et que Dieu vous chope, et qu'il vous dit « Qu'as-tu fait ?» Enfin, ça nous arrive quand nous péchons aussi. Et qu'à un coup, il nous dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» C'est pas compliqué, hein. C'est quelques mots. Mais ça, c'est énorme dans le cœur d'un homme, normalement. Et c'est aussi là le verdict de Dieu qui va tomber. Tu dois accepter ton péché, tu dois le reconnaître. Dieu est formidable parce qu'il aurait pu dire, dès qu'on pêche, c'est fini. Allez, dégagez, vous m'énervez, vous fatiguez. Et Dieu sait qu'on est pécheur, mais il a donné aussi la solution. Et certainement qu'il y avait eu une solution là aussi pour Caïn, mais lui, il l'a rejeté. Le verdict de Dieu va tomber, puisque Caïn va être maudit. La culture de la terre va être encore plus difficile, certainement, que ce que connaissait Adam à l'époque. Il va être condamné à l'exil, à l'errance. Alors nous aussi, ouais, bon, ben, j'irai à Paris, À l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il faut juste imaginer le contexte. La terre, c'était vide. Ça vous dit d'aller dans le désert? Aller travailler la terre dans le désert, essayer de faire pousser quelque chose dans le désert. Ou peut-être, il n'y avait peut-être pas que des déserts, mais tout seul. Bon, il va rencontrer une civilisation après, mais quand même. Et une errance, et certainement aussi la peur des autres, puisque il va répondre à un moment quelque chose, on verra ça tout à l'heure, mais c'est marrant parce que Dieu ne condamne pas à mort. Pas encore, en tout cas. Ou du moins, à ce moment-là, Dieu faisait sa justice, lui, personnellement. C'est seulement après le déluge que un mort pour mort, hein, dans Genèse 9, 6, on verra qu'il y a la condamnation à mort si on tue quelqu'un. Mais à ce moment-là, c'était la justice de Dieu, en sa plus grande beauté, j'ai envie de dire. Hein, il ne le condamna pas à mort. Je ne sais pas qu'est-ce qui était le mieux, d'être exilé ou loin de Dieu, je ne sais pas. Mais en tout cas, encore une fois, qu'est-ce que Caïn va faire? Il va négocier. Il est malin. Il est terrible quand même. Il n'a pas l'air d'avoir des regrets, il n'a pas l'air de vouloir se repentir, mais par contre, il voit le poids du châtiment qui va tomber sur lui, le poids du péché, parce que le mot peut être la même chose. Il comprend la culpabilité, il comprend aussi la conséquence de toutes ces choses. Et il dit, c'est trop lourd pour moi. Imaginez quand même dire ça à Dieu, voilà, j'ai fait des bêtises, tu me punis, c'est tout à fait juste, mais c'est trop lourd pour moi. On est comme ça aussi, hein, des fois. Dieu nous reprend peut-être, on dit, ouais, t'es trop dur avec moi. Hein. Non. C'est pas trop lourd, sinon il l'aurait pas fait. Mais quelque part, il a aussi une espèce de lâcheté, quelque part, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il a peur d'être tué. Si quelqu'un le rencontre, il a peur d'être tué. Alors on peut se poser la question par qui ? Peut-être par le père, tout simplement, son père, qui est le père d'Abel, qui est aussi son père. La Bible ne dit rien, on peut imaginer. Peut-être les gens qui vont le rencontrer, mais pourquoi ils iraient le tuer ? Ils ne savent pas qui il est, à moins que blablabla, il n'y a pas encore Facebook à l'époque, mais bon. Hein ? Mais il négocie avec Dieu. Et là encore, Dieu est bon, plein de compassion, et va rassurer Caïn en parlant de venger 7 fois par Dieu. Si jamais on tuait Caïn, il serait vengé 7 fois. Bon, enfin, je me dis, si je suis mort, à quoi ça me sert qu'on me venge après? Mais bon. Alors, il y a plusieurs interprétations. Hein. Il y en a qui pensent que celui qui aura tué Caïn sera puni de mort avec 7 reproches. C'est mignon. Enfin bon. Il y en a d'autres qui pensent que ce sera une vengeance jusqu'à la 7e génération et pensent que ça va jusqu'au déluge. Mais bon, on n'a pas tué Caïn, donc je pense pas. Je pense que le sens le plus simple avec d'autres, c'est que celui qui s'en prendra à Caïn sera puni 7 fois plus durement que Caïn, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller compliquer. Après, on verra bien ce que le Seigneur voulait dire. Mais en tout cas, Dieu dit, je te protégerai et qu'on ne te touchera pas. On ne pourra pas t'aborder aussi facilement que cela, malgré que tu aies péché, malgré que tu m'aies désobéi. Il est bon, Dieu, quand même. Hein. Il est merveilleux. Il est vraiment plein d'amour, même pour le pécheur. Même quand des fois il ne veut pas se repentir. Et là, Dieu interdit une chose aussi, c'est la vengeance personnelle. Eh oui, parce que si quelqu'un allait se venger peut-être, imaginons le père de Abel qui serait allé se venger, Dieu aurait puni Abel. Il dit, ne vous vengez pas vous-même. Et bien plus tard, dans Romains, il dira, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Si quelqu'un vous énerve ou fait du mal, n'allez pas vous venger. Ça ne sert à rien, de toute façon, vous n'irez pas mieux après. Et même si vous l'avez tué, vous irez encore moins bien après. Mais Dieu s'occupera de cette personne. Alors ne priez pas tous les jours, Seigneur, venge-moi, 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 il mérite. Non, Dieu, il ne va pas agir parce que vous lui demandez. Mais Dieu, dans sa compassion, comme pour Caïn, à un moment, saura quoi faire avec cette personne qui nous a fait du tort. Et puis il est dit que Caïn aura un signe. Alors là, il y a beaucoup de blabla, hein, mais peut-être que certains pensent qu'il avait du remords sur son visage, une tristesse certainement qui se voyait. À cause de ce qu'il avait fait, je pense que oui, pourquoi pas. D'autres disent qu'il avait des lettres sur le front, j'ai un peu du mal à croire. Des vêtements particuliers, bon, je ne sais pas. En tout cas, Dieu sait, et ce n'est pas le plus important de savoir qu'est-ce que c'était que ce signe, mais il allait être reconnu, en tout cas. La religion, c'est un culte charnel, tout simplement, mais qui conduit à agir autrement que Dieu, et peut-être même des fois va pousser jusqu'au meurtre, hélas. À nous de nous poser la question, est-ce que nous sommes vraiment nés de nouveau ? Sauvé, avec une vraie foi, ou est-ce qu'au fond de notre cœur, on est religieux parce qu'on était peut-être catholique autrefois et on a l'impression que ça continue, mais maintenant de façon évangélique, on peut se poser la question. Ou alors si on est né de nouveau, peut-être que nous faisons des choses religieusement. On vient à l'église parce qu'il faut venir à l'église, on repart à l'église. Est-ce qu'on vient avec joie le dimanche matin ? Il n'y a pas beaucoup de oui, hein ? Parce que la couette, hein, ce matin, ma couette, je l'ai bien aimée. Surtout que j'ai un peu de fièvre, donc... Je serais bien resté au lit, mais bon, je suis là, j'ai du boulot. Mais nous sommes aussi des fois religieux. Dieu ne veut pas une vie de chrétien où il faut faire pour faire. Ça, c'est la religion, c'est idiot. Mais ce qu'il veut, c'est qu'on aime le Seigneur profondément. C'est la foi, tout simplement. Qu'on découvre Dieu pleinement, dans sa miséricorde, dans son amour, dans sa grâce, dans le service qu'il veut aussi que nous fassions pour lui. Et quand on fait les choses avec joie, quand on obéit à Dieu, tout simplement, alors tout change dans la vie chrétienne. On ne rend plus les pieds parce qu'on est chrétien. Au contraire, on va le faire avec le sourire. Hein, c'est facile de servir le Seigneur. Facile de venir prier. Facile de venir à l'étude biblique. Je sais que tout le monde ne peut pas, mais beaucoup le peuvent, mais ne le font pas. Peut-être qu'on est religieux, tout simplement. On n'a pas compris que c'est important pour ma foi, pour mon cœur, pour mon avancement dans l'étude de la parole de Dieu, dans la compréhension de Dieu. C'est tellement important. Donc cette religion peut mener au meurtre. Et là, c'est le monde aujourd'hui démontre tout simplement que c'est tout à fait vrai. Voilà. Si on veut être religieux, on s'invente Dieu, on fait le Dieu qu'on a envie et on est prêt à tuer pour l'imposer à quiconque ne veut pas simplement de ce Dieu-là. Et aujourd'hui, beaucoup de vrais chrétiens meurent à cause de ces personnes. Et comme j'ai entendu tout à l'heure, on peut prier aussi pour nos ennemis, et même les bourreaux, parce qu'il y a des gens de Daesh, j'ai entendu, qui se sont convertis. Donc, il y a des Caïns, des fois, qui vont quand même fléchir le genou. Et ça, c'est merveilleux quand quelqu'un fléchit le genou comme ça. Vous savez, Paul, avant d'être le super apôtre, c'est un meurtrier, hein, faut pas oublier. Il a fait tuer plusieurs chrétiens, beaucoup de chrétiens, j'imagine. Hein. Peut-être pas par ses mains, mais de toute façon, donner l'ordre, c'est déjà être coupable. Mais pourtant, Dieu a transformé cet homme. Pour terminer, Caïn va s'éloigner de la face de l'Éternel. On a vu, ça devait aussi être terrible pour lui de ne plus être devant sa face. Il va habiter la terre de Nod qui est à l'orient de l'Éden. Hein. Je n'ai pas de carte, mais je ne saurais pas exactement où c'est. Mais bon. Il va fonder sa famille et il va voir Enoch. Alors Enoch, ce n'est pas le Enoch qui va vivre longtemps. On ne sait pas où il est, s'il est mort, etc. Ce n'est pas le même. Mais ce qu'on voit surtout, c'est peut-être au travers de Caïn. Certains pensent que ben, tout doucement, le péché va se répandre. C'est déjà répandu parce que je pense qu'il y avait d'autres générations. Hein, parce que il va arriver, il va construire une ville, il y avait d'autres gens. Donc il y a eu beaucoup de gens déjà qui étaient là sur la terre, mais on voit le péché qui va rentrer de plus en plus sur la terre jusqu'au moment où on arrive au déluge et Dieu dit le péché est à son comble. On ne peut pas faire plus qu'à ce moment-là. On voit qu'en quelques générations seulement, comment c'est allé vite. Alors quand Dieu dit que le péché est à son comble, on se plaint de nous aujourd'hui? J'imagine comment ça devait être horrible à ce moment-là, et si Dieu a décidé de noyer la terre, ce n'est pas pour rien. Mais on peut tirer des leçons pour nous. Je l'ai dit déjà, est-ce que nous vivons religieusement comme je veux? Ce n'est pas forcément faire des actes, mais le fait que je dis, moi, j'ai envie de vivre ma vie d'église comme je veux, quand je veux, à mon rythme, etc., c'est déjà vivre comme un religieux. Dieu n'a jamais dit, vous faites comme vous voulez. Vous l'avez vu la semaine dernière, on doit lui être soumis, normalement, comme un esclave. Alors, il ne nous fouette pas, il nous laisse une certaine liberté, mais il y a quand même de l'idée derrière. Ou est-ce que je vis par la foi? Et là, ce n'est pas un esclavage quelque part, c'est une joie parce que j'ai envie de grandir dans ma foi, j'ai envie d'avancer avec le Seigneur, j'ai envie de le prier, j'ai envie de faire les principes de Dieu. Et là, forcément, ma vie chrétienne sera quand même un peu meilleure, même si parfois il y a des persécutions. Est-ce qu'on est sauvé par notre religion? Parce qu'il y a beaucoup, on l'a vu tout à l'heure, de chrétiens dans les églises aujourd'hui qui croient être sauvés, mais qui, parce qu'ils sont religieux, n'ont pas compris qu'il faut se repentir authentiquement de son péché. Demander pardon sérieusement pour ce qu'on a fait, on a désobéi à Dieu, et ensuite accepter Christ dans sa vie. C'est ça, se repentir vraiment. C'est ça, naître de nouveau. Et aujourd'hui, on édulcore tellement le message hein, sur YouTube, etc., que celui que vous chantiez un chant, vous êtes sauvé. Et les gens sortent comme ça en croyant être sauvés. Et trois semaines après, première épreuve, et boum. Mais pourtant, je suis sauvé. Ou je ne gagne pas plus d'argent, parce que, soi-disant, on gagne beaucoup d'argent quand on est sauvé. Je vous garantis que non. Ou est-ce que je suis justifié par la foi, c'est-à-dire que j'ai été déclaré devant Dieu juste? La justification, c'est vous rentrez dans le tribunal de Dieu, Dieu vous regarde et dit « t'es pécheur, t'es condamné ». Et moi, je dis « rien », parce que je ne peux rien dire, il a raison. Mais heureusement que Jésus rentre dans ce tribunal comme avocat, et il dit « non, je veux prendre la place d'Emmanuel ». Et Dieu dit « ok, je te justifie, je te déclare juste, puisque quelqu'un a payé la rançon, toi tu peux sortir du tribunal maintenant, tu es tout simplement justifié ». Et quelque part, au côté du trône de Dieu, comme je dis souvent, il y a un diplôme, entre guillemets, qui dit « Emmanuel est justifié » et personne ne peut aller l'arracher, parce que c'est à côté de Dieu. Vous ne pouvez pas l'arracher. Eh non, c'est par la foi que je le crois, évidemment, tout cela, mais la Bible nous le dit aussi. L'un cherche Dieu à sa guise, l'homme religieux, le chrétien religieux peut-être, ou le chrétien charnel, parce que la Bible parle du chrétien charnel, il essaie de fabriquer son Dieu à sa guise. Laissons tomber cela parce que vous perdez beaucoup de temps, en fait. L'autre s'est vraiment repenti, comme je dis, et a décidé, dans la mesure où c'est possible, d'obéir au maximum au Seigneur. Et pour ça, il faut savoir ce qu'il veut aussi. Et pour ça, on y revient toujours à la même chose. Il faut lire la Bible. On va prier. Seigneur, merci pour cette triste histoire que tu nous laisses, mais qui est là comme une leçon pour nous, entre cette religiosité que l'homme peut avoir vis-à-vis de toi et vivre réellement par la foi, authentiquement. Merci pour Abel, même s'il en a payé de sa vie, de nous avoir laissé cet exemple qu'il fallait un sacrifice sanglant pour que nous puissions être un jour pardonnés. Et là, on pense évidemment à Jésus-Christ qui viendra plus tard comme l'agneau parfait, sans péché, et qui s'offrira pour tous les pécheurs qui l'accepteront dans leur vie. Plus tristement, nous voyons la religion qui s'est développée au fur et à mesure et qui continue encore aujourd'hui sa triste œuvre. Seigneur, que si nous approchons des catholiques, des musulmans ou d'autres formes de religion, nous puissions avoir peut-être des arguments, l'envie de leur parler, de leur montrer combien c'est pas être religieux qui est important, c'est pas ce que nous faisons, mais c'est d'accepter le don gratuit de ta grâce qui est absolument essentiel pour pouvoir entrer au ciel avec toi et éviter tout simplement le paradis, l'enfer. Seigneur, nous avons parlé d'être peut-être religieux. Tu connais notre manière de vivre avec toi, notre vie chrétienne. Est-elle religieuse? Je ne sais pas. Le faisons-nous avec joie? Avons-nous du zèle pour toi? Donne-nous du zèle pour te servir, Seigneur. Tout simplement pour te faire plaisir chaque jour. Et je crois que tu le mérites largement vu la compassion que tu nous accordes chaque jour. Que ton nom soit glorifié en Jésus-Christ. Amen. Amen.